enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voilà, bonjour à chacun. Vous avez vu que j'ai apporté ma Bible. Hein, et ce matin, nous allons parler de la Bible. Hein, quelqu'un dit, oui, je m'y attendais. Ben oui. Eh oui, on est là pour ça. Mais aujourd'hui, c'est différent, nous allons parler de toute la Bible. Hein. Alors là, il dit, aïe, 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 ça va être long. Non, j'aimerais simplement un petit peu aujourd'hui voir quelques principes qui nous permettront de savoir comment aborder le livre Bible dans son intégralité. On ne lit pas la Bible comme n'importe quel autre livre, et à l'intérieur de la Bible, on ne lit pas chaque livre de la Bible de la même manière. Du reste, c'est ce qu'on fait dans la vie courante à propos de n'importe quel texte. On n'aborde pas, je ne sais pas, moi, vous ne lisez pas Le Chaperon Rouge, par exemple, de la même façon qu'un rapport d'un congrès écologique sur la réimplantation de Canis lupus dans le nord des Alpes. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Pourtant, ça parle du loup dans les deux cas. Hein. Mais l'objet n'est pas le même. On ne pourrait pas lire, par exemple, La guérison des Dalton comme un traité sur la psychanalyse. Ça ne serait pas honnête. Hein. Donc, à l'intérieur de la Bible, vous avez différents livres, différents genres. Et ces genres ne se lisent pas de la même manière. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j'aimerais rappeler que la Bible n'est pas un livre qui a été écrit pour des initiés. Ce n'est pas un livre élitiste. Ce n'est pas un livre qui présuppose tout un bagage, je ne sais pas moi, intellectuel, culturel, etc. C'est un livre qui a été écrit pour les simples, pour les petits, et pour les intelligents, et pour tout le monde. Cependant, il n'empêche que nous pouvons le lire à un certain niveau et nous pouvons aussi rentrer davantage dans l'intérieur du texte, dans l'intérieur de sa rédaction, dans l'intérieur de son objet. Et ce matin, j'aimerais un petit peu faire un survol vraiment stratosphérique hein, de l'ensemble de ces genres littéraires qu'on trouve dans la Bible, et deuxièmement, dans un deuxième temps, de parler un petit peu de ce qu'on appelle des figures de style, c'est-à-dire des méthodes d'expression qui nous permettent de mieux comprendre comment un texte peut être écrit. C'est ce qu'on fait dans la littérature en général, hein, mais aussi tout texte est écrit avec un certain présupposé culturel, de langage, etc. Donc, par exemple, au niveau, si on parle simplement dans un premier temps, des genres de livres que l'on trouve dans la Bible, vous avez, on va dire par exemple, un genre très particulier qui est le style poétique. Vous avez dans la Bible des passages qui sont poétiques. Et si on ne les lit pas comme des livres poétiques, alors on va droit dans des absurdités épouvantables. Par exemple, vous trouverez un passage où on nous dit que les arbres battent des mains. Bon, alors, évidemment, si quelqu'un d'assez malhonnête disait « Oui, la Bible dit des bêtises, mais on dit même que les arbres ont des mains. » Bon, ok, d'accord. Ce serait pas très... C'est un argument peu intéressant. Donc, on comprend qu'il y a un style qui est un style poétique et à l'intérieur de chaque style, les mots, les expressions peuvent avoir un sens, un contenu sémantique qui est différent. Par exemple, si on parle dans la Bible, vous avez différents endroits où on parle des chiens. Okay, par exemple, lorsque Jésus parle de la parabole de Lazare et du mauvais riche, hein, il dit que même les chiens, dans Luc 16, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Dans ce passage, Jésus parle réellement de l'animal, le chien. Mais quand vous trouvez le même mot chien dans Apocalypse 22, dehors les chiens, bon, on imagine bien qu'on ne parle pas des quadrupèdes. Parce que là, on est maintenant dans un texte de caractère prophétique. Hein, l'Apocalypse est un genre encore un peu particulier, mais il fait quand même partie du style prophétique. Donc là, on sait bien qu'on parle, le mot chien est employé dans un sens figuratif complètement différent. Alors, je ne voudrais pas que vous ayez l'impression qu'aujourd'hui, je sois sur le point de compliquer des choses simples. Hein. Hein? Quelqu'un se dit, bon, ben, jusque-là, je lisais la Bible, c'était bien, mais là, s'il va tout nous compliquer, celui-là. Bon, non, n'ayez pas peur. On fait juste un petit survol comme ça, ok? Ça vous va? Comme dit Sam, de toute façon. Hein? C'est moi qui ai le micro. Hein? Voilà. Donc, vous avez aussi un autre genre qui est le genre législatif. Par exemple, dans le Pentateuque, les cinq livres de Moïse, vous avez quatre livres qui sont surtout des livres de loi. Hein? Le Lévitique, surtout le Deutéronome et Nombre sont des livres de loi. Donc les textes qu'on va trouver dedans sont des textes qui sont des défenses, des textes qui sont plus raides et dans lesquels il y a très peu de symboles, parce que ce sont des textes qui disent des choses directement. Par exemple, dedans, on va trouver des choses sur les animaux, puisqu'il y a tout à l'heure parlé des chiens, sur les animaux purs et impurs. Ici, c'est à prendre au sens premier, ce qu'on appelle le sens propre. Hein. Vous avez aussi des textes qui sont des textes narratifs, hein, donc par définition, qui racontent. Alors, les textes narratifs, par exemple, les livres des juges, les livres des rois, etc., les chroniques, tout ça, ce sont des livres qui ont pour objet de nous présenter un historique. Et ces historiques sont faits, comme la Bible elle-même nous dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Mais vous voyez, par exemple, si on ne fait pas attention, qu'on est dans une partie de la Bible qui est un livre historique, un livre qui narratif, alors on risque de déduire de ces livres des doctrines. Or, un livre qui raconte, ce n'est pas un livre de doctrine. On ne lit pas l'histoire de David, hein, dans 2 Samuel par exemple, on ne lit pas l'histoire de David comme l'épître aux Romains. Parce que l'épître aux Romains est là pour énoncer des doctrines. Tandis qu'un livre historique est là pour nous raconter des faits qui servent à illustrer des doctrines. C'est un peu différent. Et quand on confond les genres, alors on arrive à de grosses erreurs. Par exemple, dans le Nouveau Testament, vous avez une grande partie du Nouveau Testament, les évangiles sont essentiellement narratifs. C'est l'histoire de Jésus, on raconte. Okay? Et je prends un exemple. Imaginez... Qui est bien connu dans l'histoire de l'Église, hein, cet épisode où, lorsque Jésus est sur la croix, il dit, il y a Marie qui est là, et puis Jean, le disciple bien-aimé, et Jésus dit, « Femme, voici ton fils, fils, voilà ta mère. » Et dès ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui. Ok, ça c'est une narration, c'est un fait historique. Si on prend ce fait comme s'il était l'expression d'une doctrine, alors on en arrive à des erreurs historiques bien connues qui feraient, par exemple, de Marie la mère de tous les croyants. Or, Jésus ne dit pas ça. Jésus dit à Marie, « Femme, voilà ton fils. » C'est à Marie que Jésus a dit cela à propos du disciple Jean, pas des autres disciples. Du reste, la suite de l'histoire est très claire. Le disciple a bien compris qu'il était concerné lui-même et donc ce disciple l'a pris chez lui. Il s'en est occupé. Voyez ? Donc, si on fait d'un fait historique, si on le prend comme si c'était une doctrine, alors on va faire un amalgame qui va nous amener à des positions qui seront infondées. Ok ? Ça va ? Je ne vous ai pas perdu en route là encore ? Non ? C'est bon ? Ça va ? Il reste quelques-uns ? C'est bien ? Bon, très bien. Et donc, les livres... par contre, vous avez un autre genre qui est le livre ce qu'on appelle didactique, c'est-à-dire qui enseigne. Hein, c'est un livre, c'est de la doctrine, si vous voulez. Donc, c'est dans ces livres-là que nous allons chercher maintenant l'ensemble, le corps de ce que nous croyons, exprimé sous cette forme-là. Les autres passages seront importants pour nous le faire comprendre. Hein. C'est par exemple toutes les épîtres, non seulement les épîtres de Paul, mais les épîtres générales, etc. À l'intérieur des évangiles, qui sont, comme je disais, qui sont très narratifs, mais à l'intérieur des évangiles, vous avez encore, Jésus emploie un genre différent. La parabole est encore un genre différent. On ne lit pas une parabole comme, les cinq discours de Jésus dans Matthieu sur l'Église, etc. Ce sont, ou le discours éthique, le sermon sur la montagne. Ce sont des discours qui sont différents. Les paraboles se lisent comme des illustrations. Et le genre des paraboles est aussi à bien comprendre. Vous avez par exemple la parabole du bon samaritain. Bon, moi j'ai écrit ici, j'ai écrit en abrégé, j'ai écrit le bon Sam, mais bon, vous savez que je sais que c'est le bon samaritain. Et donc, la parabole du bon samaritain, c'est pas une doctrine. La parabole du bon samaritain, c'est l'illustration d'une doctrine. Cette doctrine, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Okay. Et la parabole du bon samaritain est là pour l'illustrer. Mais il nous faut comprendre comment on lit ce texte. Sinon, si on le lit simplement à un niveau complètement, j'allais dire, fondamentaliste étroit, on en déduira que nous devons, que les samaritains doivent porter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin, dans la détresse. Mais comme personne ne connaît de samaritains, ça nous laisse royalement en paix. On est tranquille. Aimer les Samaritains. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Maintenant, quelquefois, aimer certains immigrés dans des huppes, tout ça, c'est un peu plus difficile. Et ça, c'est la parabole du bon Samaritain que Jésus nous raconte aujourd'hui. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Et à la fois, vous voyez, ce que j'aimerais bien, c'est que nous soyons tous absolument persuadés que devant la Bible, nous sommes devant un contenu qui est l'expression de la vérité. Il n'y a rien dans la Bible qui ne soit pas vrai. Il n'y a rien qui soit superflu, il n'y a rien qui soit trouble, il n'y a rien qui ne soit pas réellement inspiré par Dieu. Je crois à l'inspiration et nous croyons à l'inspiration totale de toute la parole de Dieu dans les textes originaux. Évidemment, hein, nos traductions sont des traductions. Mais nous croyons à l'inspiration totale de la Bible, ce qu'on appelle à l'inhérence. Il n'y a pas d'erreur dans le texte original de la Bible. Maintenant, le trajet que cette vérité fait dans notre tête pour que nous la comprenions et pour que nous puissions l'expliquer passe aussi par notre intelligence, que Dieu renouvelle. L'apôtre Paul dit qu'il prie pour que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, pas par l'ablation du cerveau, hein, par le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit. Et donc Dieu veut nous faire comprendre ces choses et elles peuvent être étudiées. Nous pouvons entrer dans la Bible et y entrer avec un examen, y entrer avec des outils, entrer dans la parole de Dieu en cherchant à la comprendre. Le Seigneur veut nous aider à cela. Vous voyez, on ne peut pas lire simplement la Bible une fois et puis c'est tout. Vous voyez, c'est un peu le problème de certaines personnes qui ont lu la Bible une fois, deux fois, puis après ils disent bon ben maintenant maintenant je sais ce qu'il y a dedans quoi. Hein. Alors, ben, pourquoi la lire encore? Évidemment, si vous comprenez la Bible comme un roman d'Agatha Christie, on n'a pas envie de le lire 15 fois, hein, parce que le suspense, il n'y en a plus. Mais on ne lit pas la Bible pour le suspense. On lit la Bible parce qu'on sait que dans la Bible, nous sommes en relation avec celui qui l'écrit. nous sommes en communion avec celui qui nous la parle quand nous sommes en train de la lire. Et c'est pourquoi je crois que c'est pas anormal de dire que ça présuppose aussi un effort. Ça peut demander un examen, une étude, etc. Alors, on la lira tous différemment parce que nous avons une culture chacun différente, et puis une personnalité, des attentes, des besoins, un passé, etc., un système émotionnel différent. Donc, on va la lire chacun différemment, pourvu qu'on soit chacun nourri, pourvu que chacun d'entre nous, nous recevions quelque chose, et pourvu aussi que nous ne nous lassions pas en route. Parce que vous savez, je me rappelle de cette image des Hébreux qui étaient sortis d'Égypte où ils étaient esclaves, et puis ils sont arrivés dans le désert, et dans le désert, ils mangeaient la manne, une sorte de pain qui descendait du ciel, qui se répandait autour de leur corps. Ils avaient qu'à se baisser, ils ramassaient, c'était le premier jour, ils ont dit « Mouah, c'est vachement bon !» Enfin, pardon, c'est excellent. Et donc, ils se sont régalés. Bon, un jour, deux jours, mais le problème, c'est que ça a duré un tout petit peu longtemps, et qu'au bout de quelques années, quelques-uns ont dit « Nous en avons marre de cette misérable nourriture. » Voilà. Pourtant, c'était le pain qui descendait du ciel. Et nous pouvons être confrontés au même problème. On découvre la Bible. « Ah, ça m'a nourri, c'est formidable !» Au bout de quelques années, c'est comme si on était devant un quignon sec. Alors, voilà. Et je crois que c'est intéressant de se dire comment je lis la Bible. Qu'est-ce que je cherche à trouver dans la Bible? Pourquoi le pain qui est descendu du ciel finit par me paraître aujourd'hui fade, insipide, ou, je sais pas, monotone, etc. Et je crois que ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est que c'est un livre qui est intelligent. Parce qu'il a été écrit par celui qui est tout intelligent. Celui que nous ne comprendrons jamais tout à fait, même quand nous le verrons face à face. Et ça vaut la peine de se donner les moyens de rentrer dans ce livre. Parmi les genres, vous avez encore un genre qui est très important en volume dans la Bible, c'est le genre prophétique. Hein, vous avez tous les livres des prophètes, les grands prophètes, les petits prophètes, l'Apocalypse aussi, et puis quelquefois à l'intérieur d'autres livres, des passages qui sont des passages prophétiques. Et ça, c'est aussi un genre qui se lit très différemment. Tiens, je vous lis, par exemple, parce qu'il faut quand même que je lise la Bible un peu, hein, sinon... Alors, je vous invite à lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Au chapitre 8. C'est à l'intérieur, donc le livre des Actes, c'est un livre narratif, mais où on découvre comment on peut appréhender un passage prophétique. Il s'agit, pendant que vous cherchez, acte 8, 29, il s'agit d'un évangéliste qui s'appelait Philippe, et cet évangéliste a été conduit par Dieu à entrer en relation, en discussion, avec un homme politique, un ministre africain, et donc il s'approche de lui. Acte 8, 29, hein. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et il entendit cet Éthiopien qui lisait dans le prophète Ésaïe. Il lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et l'autre répond, mais comment est-ce que je pourrais y comprendre quelque chose s'il n'y a pas quelqu'un qui m'aide? Et du coup, il invite Philippe à monter sur le char, à s'asseoir à côté de lui. Alors, le passage de l'Écriture qu'il était en train de lire était celui-ci, dans le prophète Ésaïe. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a même pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, sa postérité, qui pourrait la dépeindre, puisque sa vie a été retranchée de la terre ?» L'Éthiopien arrête sa lecture là et il dit à Philippe, Je t'en prie, explique-moi. Le prophète, là, il parle de qui, comme ça? Est-ce qu'il parle de lui? Ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez, ça peut sembler, j'allais dire, presque bizarre, parce que ce passage ne fait nommément pas question de Jésus. On ne parle pas de Jésus, on parle dedans d'une histoire d'un agneau qu'on mène à la boucherie. Bon, mais ce texte qui a été écrit par le prophète Ésaïe des siècles auparavant, c'est un passage qui lui a été inspiré par Dieu, où il montrait sous l'apparence de cette image de l'agneau qui est immolé, le Messie souffrant à la croix. Et finalement, on voit vraiment dans ce passage une conduite de Dieu extraordinaire pour que cet évangéliste Philippe soit arrivé en contact avec cet homme juste au moment même où il était en train de lire ce passage. Il lisait à haute voix. Alors Philippe lui a expliqué, lui a dit, mais non, le prophète ne parle pas de lui, il annonce quelqu'un qui devait venir des siècles après lui, celui qui a pris nos péchés, celui qui était juste, celui qui était innocent, celui sur qui Dieu a mis à déverser nos fautes, nos iniquités et notre nature mauvaise. Tout cela a été mis sur lui, lui-même a été volontaire, il n'a pas résisté, il aurait pu, il n'a rien dit, il s'est laissé briser, il a été crucifié. C'est ce Jésus dont tout le monde parle à Jérusalem. Tu as entendu parler? L'eunuque dit, oui, je sais bien, mais je ne sais pas quoi en penser. Mais Jésus dit, Philippe lui dit, mais c'est lui, si tu veux qu'un jour tes péchés soient enlevés de tes épaules, si tu veux être déchargé, c'est ce Jésus qui te décharge. C'est lui qui est mort exprès pour toi. Ah bon? Et puis après, ils sont passés à d'autres passages, etc. Voilà comment un passage prophétique peut être lu dans la pensée de sa réalisation. D'accord? Et c'est pour ça que nous devons prendre des passages comme ça, d'une façon complètement différente. On ne lit pas Ésaïe comme on lit l'Épître aux Galates. Okay. Vous avez aussi un genre encore un peu différent dans la Bible qui sont les proverbes. Et les proverbes, bon, bien sûr, surtout dans le livre des proverbes, mais un genre qu'on retrouve quelquefois un tout petit peu ailleurs par bribes, mais surtout dans ce livre. Les proverbes, ce sont des affirmations, mais si on oublie que ce sont des proverbes, alors on va aussi droit à des catastrophes, parce que si on les prend comme des théorèmes de mathématiques, on va avoir tout faux. Parce que les proverbes présentent des vérités en disant le juste est celui qui fait ça, le méchant il lui arrive ceci. Or dans la vie nous connaissons tous des contre-exemples, on connaît tous des contre-types. Alors on va dire oui mais ça se réalise pas toujours, mais parce que le genre du livre des prophètes, c'est pas d'affirmer des faits incontournables qui se passent toujours. C'est de mettre en évidence des tendances. C'est de mettre en évidence des réalités spirituelles, des lois. Mais nous vivons tous dans un faisceau un faisceau de paramètres. Hein. Mais au total, celui qui s'occupe des pauvres, par exemple, se trouvera toujours mieux que celui qui vit en égoïste. D'accord? Mais vous avez des égoïstes qui ont fini leur vie vieux, égoïstement vieux, oui, et puis qui sont allés jusqu'au bout, égoïstement, et à qui égoïstement tout a réussi. Vous voyez? Donc le livre des Proverbes ne nous présente pas des faits incontournables, mais nous montre comme les tendances des lignes de conduite. Mais si vous prenez chaque proverbe comme une affirmation incontournable, alors vous vous trouvez constamment, même à l'intérieur de la Bible, vous allez vous trouver devant des contradictions. Ça va? Bon, donc c'est juste pour vous aider un petit peu. Un deuxième point, c'est que la Bible est écrite aussi comme un ouvrage littéraire. Tous les livres sont écrits avec on y met dedans des procédés d'écriture. Là où il y en a très peu, c'est par exemple dans l'annuaire du téléphone, ou dans le les horaires de la SNCF. Là, c'est vrai qu'il y a très peu de figures de style. Mais sinon, dès qu'on parle, dès qu'on s'exprime, on met dans tout ce qu'on dit, on ajoute des comparaisons, on y met des métaphores, etc. Et la Bible contient aussi des choses comme ça. Et il faut aussi bien les comprendre comment elle a été écrite pour ne pas lui faire dire des choses qu'elle n'a jamais dites. Parce qu'un des problèmes, c'est qu'on a souvent dit de la Bible qu'on peut faire dire à la Bible n'importe quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. On peut faire dire à la Bible n'importe quoi. Si on la lit sans principe, si on la lit sans règles, si on la lit avec des présupposés, si on la lit sans tenir compte du contexte, si on la lit en ayant d'abord décidé ce qu'on voulait y trouver, et puis qu'ensuite on cherche des bribes, des petits bouts par-ci, par-là, pour faire sous-tendre une idée qu'on avait au préalable, alors évidemment on peut faire dire à la Bible n'importe quoi. On peut aussi, dans ce cas-là, on peut aussi lire le Chaperon Rouge comme un traité sur la psychanalyse, c'est vrai. Mais ce n'était pas vraiment son objet non plus. Okay? Alors, la Bible ne dit pas n'importe quoi. Et on peut se méprendre, mais j'aimerais aussi rappeler qu'il n'y a aucune vérité fondamentale, aucune vérité importante dans la Bible qui ne soit contenue qu'une seule fois dans un passage difficile, trouble, confus, etc. La Bible n'est pas difficile à comprendre. Elle n'est pas difficile à comprendre. C'est pas un truc d'érudit. La Bible, c'est pour chacun, c'est pour tout le monde, c'est pour chacun d'entre nous. Alors, je passe en vitesse comme ça quelques figures de style qui permettent de comprendre comment elle est écrite. Vous avez dans la Bible, par exemple, des comparaisons. Bon, ça, on connaît, c'est facile. Par exemple, le juste est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit, etc. C'est une comparaison. Hein, il est comme. Mais des fois, les comparaisons sont plus personnalisées, ça devient des métaphores. Par exemple, on dira « l'Éternel est mon berger ». Bon, on comprend bien que c'est une comparaison, mais c'est exprimé comme si il le devenait. Alors, bien sûr, si on veut être littéraliste au sens étroit du terme, alors quelqu'un dira « donc Dieu est un berger ». Ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que Dieu, l'Éternel, se présente comme ça. Mais il se présente comme ça pour utiliser une image qui nous permet de le comprendre, de l'appréhender. Okay? C'est une métaphore. Et il faut comprendre que dans la Bible, ces symboles ne sont pas toujours utilisés non plus de la même façon. Hein, par exemple, l'eau est souvent un élément de comparaison, mais le feu aussi. Et pas pour représenter toujours la même chose. Hein, le feu peut représenter le feu, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, mais c'est quelquefois aussi l'image du jugement. Donc c'est autre chose. Vous avez une figure de style qui s'appelle l'anthropomorphisme. C'est joli, hein? C'est joli comme mot, je veux dire. Bon, on peut pas l'employer tout le temps, mais si quand on peut le dire une fois de temps en temps. Bon, alors tout simplement, ça veut dire que Dieu est présenté comme s'il était sous la forme d'un homme. Hein, le passage classique, c'est par exemple quand le prophète demande hein, « La main de l'Éternel est-elle trop courte pour bénir ?» Donc, encore là, si on lit ça de façon très littéraliste, on va dire « Donc Dieu a une main, puisque la Bible dit qu'il a une main. »« Si, il a une main, c'est écrit, il a une main. » C'est une manière de nous... La main... C'est une façon de parler de sa force, de sa capacité d'action. Hein, comme par exemple en hébreu, on dit le mot force est toujours représenté par la corne. Alors heureusement, maintenant, les traducteurs mettent la force, mais littéralement, c'est la corne. Bon, moi, j'aime mieux qu'on parle de ma force que de ma corne. Alors, vous avez une autre figure de style qui s'appelle un euphémisme. Un euphémisme, c'est une façon de parler de manière moins shocking, de quelque chose qui est désagréable ou choquant, etc. Par exemple, la Bible parle souvent des relations conjugales, des relations sexuelles, en disant simplement le verbe « connaître hein. ». Un tel connut sa femme et elle devint enceinte. Hein. Bon, on sait que dans cette expression-là, c'est une façon de s'exprimer, c'est un idiomatisme. Vous avez des symboles, hein. Par exemple, avec les chiffres, hein, la Bible contient beaucoup de symboles avec les chiffres, hein. Les symboles, par exemple, la succession des symboles 12 et 70 revient très souvent. Hein, par exemple, vous avez dans le Nouveau Testament, vous avez les 12 apôtres, hein, et puis après, vous avez les 7 diacres, 7 ou 70. Hein. Jésus envoie d'abord les 12, après il envoie les 70. Hein. À Jéricho, vous aviez 12 sources d'eau et 70 palmiers. Vous avez Jacob qui part avec, ils sont avec ses 12 enfants, et après, quand toute la famille est constituée, ils sont 70 saints. Quand Jésus, les deux multiplications, vous avez d'abord la première, il reste 12 paniers, après la deuxième, il en reste 7. Vous voyez, c'est toujours 12, 7, 12, 7, parce que derrière ces symbolismes de chiffres, hein, il y a l'affirmation qu'on retrouve dans l'Épître aux Romains que la parole de Dieu a été envoyée d'abord au peuple juif, c'est le chiffre 12, et puis 7, c'est la plénitude, c'est l'ensemble de toutes les nations. Maintenant, si on se met à lire toute la Bible derrière des symboles et derrière des chiffres, alors on tombe dans une lecture kabbalistique où après on fait, on dépouille le texte de la personne même de Dieu pour en faire une succession de devinettes. Et là, on est carrément parti dans une ornière. Vous avez ce qu'on appelle des métonymies. C'est une métonymie, c'est la figure de style qui prend une cause. Une cause pour son effet, ou une partie pour le tout, comme quand on dit une voile pour dire un bateau, ok? Et on retrouve des passages comme ça. Par exemple, Paul parlera quelquefois de la circoncision pour parler non de l'acte ni de son effet sur une personne, mais pour parler de l'ensemble du peuple juif. Il dit quelquefois la circoncision, comme l'opposant aux nations qui ne sont pas juives. Alors, il faut le comprendre, vous voyez, c'est des choses, c'est, le texte est écrit comme ça. Donc, si on comprend pas de quoi on parle à ce moment-là, eh bien, c'est sûr que toute la doctrine s'en trouve complètement changée. Vous avez des choses qui sont, des figures de style qui sont liées à l'expression. Par exemple, l'écriture hébraïque, la pensée, je veux dire, le langage, procède beaucoup par parallélisme. Très souvent, la pensée hébreu dit deux fois la même chose avec un « et », comme si c'était deux choses différentes. Par exemple, on dira de quelqu'un qu'il était, très vieux et avancé en âge. Bon, c'est une façon de souligner vraiment son grand âge, mais ça dit la même chose. Vous avez dans la Genèse, par exemple, à propos de Sodome, on dit qu'il se mit à pleuvoir du soufre et du feu. En fait, c'est un indice, c'est une façon de dire que c'est du soufre enflammé. Mais voyez, mais comme hein, c'est dans le langage, alors certains disent bon que du soufre tombe, d'accord, mais du feu de quoi? C'est quoi qui est, c'est ce soufre qui est enflammé. C'est une alors je ne sais pas s'il faudrait le traduire comme ça parce que nous on parlerait pas comme ça. Mais quand on le lit, en tout cas, hein, c'est des petites choses. Vous avez des hyperboles. Et même Jésus a parlé souvent en hyperbole. Par exemple, quand il dit « ôte la poutre qui est dans ton œil », c'est évidemment un langage, c'est une hyperbole, c'est une expression volontairement exagérée. Alors Jésus dit « ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil ». Jésus emploie volontairement un langage exagéré. Ou quand Jésus dit « vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau », il n'a pas prétendu que quelqu'un, même les pharisiens qui avaient des grandes bouches, n'étaient quand même pas capables d'avaler des chameaux. Donc, ce sont des petites choses qui mettent en évidence qu'un texte, même si on le déclare totalement inspiré, même si on le respecte totalement, il y a aussi une approche qui est une approche qui aussi peut se comprendre et s'étudier. Un prophète dira, par exemple, « Mes yeux versent des torrents de larmes ». Bon, on comprend, hein, des torrents de larmes. Vous avez aussi un procédé qui s'appelle la litote. La litote, c'est dire moins que ce qu'on voulait dire. Par exemple, Paul dit aux Corinthiens, il lit, à qui il faisait des reproches très sévères, il leur dit « Je ne vous loue pas ». Ben, ça veut dire vous avez tout faux, les gars. comprenez? Mais c'est une façon de le dire avec quand même un peu plus d'amabilité, c'est moins accusateur. Mais quand il leur dit « je ne vous loue pas », il est en train de leur dire « vous êtes complètement dans l'erreur ». Ça m'a rappelé en l'écrivant, ça me rappelait dans le Cid, hein, cette fameuse histoire de Corneille, là, quand Rodrigue s'en va et Chimène lui dit « va, je ne te hais point ». Bon, voilà, c'est pareil. Vous avez... Bon, enfin, le Cid, c'est pas terrible, hein, je vous dis tout de suite. Hein. C'est pas le... Il est ni doux, ni... L'ironie, une figure de style intéressante qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que certains textes de la Bible sont volontairement ironiques. Jésus emploie l'ironie, et quelquefois une ironie très, très, très mordante. Jésus dit, par exemple, il pose une fois la question à ses détracteurs, il leur dit « Pour quelle bonne œuvre me lapidez-vous ?» Vous voyez ? Bon, c'est de l'ironie, hein ? Évidemment, les autres ne prétendaient pas vouloir le lapider pour ses bonnes œuvres, mais à cause de son identification au Messie qu'il contestait. Mais si on ne comprend pas... Par exemple, Paul aussi emploie quelquefois l'ironie. Hein, toujours avec les Corinthiens qui s'étaient pris un petit peu la grosse tête. Hein, enfin, les patrons de l'Église prenaient un petit peu pour des... Alors Paul leur dit, déjà vous régnez. Bravo, il dit, super les gars. Hein, vous régnez, vous êtes des chefs, des papes, vous êtes bien, vous êtes... formidable. Alors nous, les apôtres, on est le rebut de l'humanité. Hein? Nous, on a droit à la prison, aux coups, aux persécutions. On a tout. Et vous régnez. Ah, vous régnez. Bien, c'est bien. Ben, régnez. Alors allez-y, régnez. C'est bien. Les gars, quand ils lisaient la lettre, ils devaient. Je pense qu'ils avaient la latte, hein, je pense. Hein? Alors, vous avez. Il faut reconnaître aussi c'est pas une figure de style, mais c'est un procédé d'écriture qui est lié au point de vue du narrateur. Celui qui écrit avec un certain point de vue. Hein, on appellerait ça, pour ceux qui s'intéressent, c'est une question de focalisation. C'est-à-dire, celui qui écrit peut écrire le texte en se plaçant au niveau d'un personnage qui est dans une scène où il peut se placer à un niveau plus haut. Et si on ne comprend pas ça, alors on est aussi face à des énigmes. Par exemple, dans la Genèse, vous avez l'histoire, vous vous rappelez de cette histoire où Abraham a reçu trois personnes, des visiteurs qui passaient par là. Alors Abraham leur dit, mais asseyez-vous, mes amis, je vais vous préparer quelque chose. Et tout le texte dans ce passage-là parle de ces trois hommes. Parce que Abraham est en train de les recevoir comme trois hommes, trois personnes qui passent. Et puis plus loin, le texte va plus loin et maintenant le narrateur change de point de vue, comme s'il les voyait, lui maintenant, non pas à travers Abraham, mais comme s'il les voyait d'en haut, de la part de Dieu. Et maintenant, on nous présente les deux qui sont partis, on nous dit « les deux anges arrivèrent à Sodome ». Vous voyez ? Alors, pour ceux qui sont fondamentalistes et qui disent, dans une vision un peu étroite, que chaque mot doit être pris toujours exactement tel qu'il est écrit, alors là, ils ont un problème. Parce que dans un endroit, on nous dit que ce sont deux hommes, et puis le chapitre suivant, on nous dit que ce sont deux anges. Alors, c'est deux anges ou c'est deux hommes ? Alors, si quelqu'un dit, c'est deux hommes, c'est écrit là. Un autre dit, non, c'est deux anges, c'est écrit là. Vous voyez ? Ce qui permet de voir qu'on n'a pas du tout de contradiction à l'intérieur du texte, c'est simplement une question d'écriture. C'est que souvent, celui qui écrit le texte, le narrateur du texte de la Bible, lui s'est situé dans la scène qu'il est en train de vivre. Hein. Ou quelquefois, il se situe plus haut. Vous avez la même chose, toujours dans la Genèse, avec l'histoire de Jacob. Vous vous rappelez Jacob au torrent de Péniel qui a lutté contre un ange ? Vous êtes sûr que c'est un ange ? Oui, le problème, c'est que dans la Genèse, ce n'est pas un ange, c'est un homme. Relisez dans la Genèse, un homme se présenta et Jacob lutta avec lui. Dans la Genèse, c'est écrit nulle part que c'est un ange. Seulement, si vous lisez la même, le récit de la même chose dans le livre d'Osée, Osée dit « Jacob lutta contre l'ange ». Alors bon, c'est un ange ou c'est un homme ? Eh bien, c'est certainement un ange. Mais au moment où Jacob s'est confronté, s'est colté avec lui, lui, il était tout à fait dans la pensée qu'il était en train de lutter avec une personne. Et le récit nous le présente à travers la façon dont lui l'a vécu. Donc, ce n'est pas des contradictions à l'intérieur de la Bible. Il faut comprendre que la Bible est écrite sous l'inspiration de Dieu par des hommes, pour des hommes, avec des procédés d'écriture qui nous correspondent. Donc, ce n'est pas anormal de rechercher comment on peut lire la Bible avec profit. Bon, il y aurait d'autres choses, je passe rapidement. Je voudrais, c'est juste pour faire un petit panorama, mais je voudrais vraiment vous encourager, m'encourager, nous encourager tous à lire la Bible. C'est-à-dire, plus que lire la Bible, c'est entrer dans la Bible. Ou mieux encore, c'est faire entrer la Bible en nous. Et si nous ne la comprenons, si nous ne l'approchons que comme un récit qui nous donne des informations, c'est sûr qu'une fois reçues ces informations, la Bible devient à ce moment-là inintéressante. Mais si vous entrez dans une relation avec la Bible, une relation personnelle avec Dieu à travers le texte de la Bible, alors ce texte va être constamment renouvelé pour vous. Il ne deviendra jamais pesant. Vous ne pourrez jamais dire « Oh, ben maintenant je sais ce qu'il y a dedans ». Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai lu la Bible en entier, c'est-à-dire comme beaucoup d'entre nous ce matin. Mais chaque fois, je tombe sur des passages où je trouve des choses qui me sont, bien que je les connaisse, elles me sont comme nouvelles. Et je voudrais vous dire vraiment un grand secret. Mais vous le répétez à personne. Hein? Un grand secret. C'est que je ne crois pas que ce soit réellement possible de grandir dans une véritable maturité en tant que chrétien sans avoir un rapport régulier avec la Bible. Je ne crois pas. Hein? Je crois que ceux qui en ont été dépourvus se sont débrouillés comme ça. Merci Seigneur, Dieu les a soutenus, c'est impeccable. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas des obligations. Mais ce serait quand même dommage de négliger le don que Dieu nous a fait. Depuis la réforme, nous avons réappris avec nos pères, nous avons réappris que la parole de Dieu nous a été donnée pour nous conduire, pour nous guider, pour nous nourrir. Ce n'est pas un règlement intérieur, ce n'est pas une loi, mais c'est une communication de vie, communication de parole. Je vous invite à prier une seconde.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.